Alfred de Musset, La confession d'un enfant du siècle, première partie, chapitre 3. J'ai raconté à quelle occasion je fus pris d'abord de la maladie du siècle. J'étais à table, à un grand souper, après une mascarade. Autour de moi, mes amis richement costumés, de tous côtés des jeunes gens et des femmes, tous étincelants de beauté et de joie. À droite et à gauche, des mets exquis, des flacons, des lustres, des fleurs. Au-dessus de ma tête, un orchestre bruyant. Et en face de moi, ma maîtresse, créature superbe que j'idolâtrais. J'avais alors 19 ans. Je n'avais éprouvé aucun malheur ni aucune maladie. J'étais d'un caractère à la fois hautain et ouvert, avec toutes les espérances et un cœur débordant. Les vapeurs du vin fermentaient dans mes veines. C'était un de ces moments d'ivresse où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend vous parle de la bien-aimée. La nature entière paraît alors comme une pierre précieuse à 1000 facettes, sur laquelle est gravé le nom mystérieux. On embrasserait volontiers tous ceux qu'on voit sourire, et on se sent le frère de tout ce qui existe. Ma maîtresse m'avait donné rendez-vous pour la nuit, et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant. Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba. Je me baissai pour la ramasser, et, ne la trouvant pas d'abord, je soulevai la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus alors, sous la table, le pied de ma maîtresse, qui était posé sur celui d'un jeune homme assis à côté d'elle. Leurs jambes étaient croisées et entrelacées, et ils les resserraient doucement de temps en temps. Je me relevai parfaitement calme, demandai une autre fourchette, et continuai à souper. Ma maîtresse et son voisin étaient de leur côté, très tranquilles aussi, se parlant à peine et ne se regardant pas. Le jeune homme avait les coudes sur la table et plaisantait avec une autre femme qui lui montrait son collier et ses bracelets. Ma maîtresse était immobile, les yeux fixés et noyés de langueur. Je les observais tous deux tant que dura le repas, et je ne vis ni dans leurs gestes, ni sur leurs visages, rien qui pût les trahir. À la fin, lorsqu'on fut au dessert, je fis glisser ma serviette à terre et m'étant baissé de nouveau, je les retrouvai dans la même position, étroitement liés l'un à l'autre. J'avais promis à ma maîtresse de la ramener ce soir-là chez elle. Elle était veuve et par conséquent fort libre, au moyen d'un vieux parent qui l'accompagnait et lui servait de chaperon. Comme je traversais le péristyle, elle m'appela. « Allons, Octave, » me dit-elle. « Partons, me voilà. » Je me mis à rire et sortis sans répondre. Au bout de quelques pas, je m'assis sur une borne. Je ne sais à quoi je pensais, j'étais comme abruti et devenu idiot par l'infidélité de cette femme, dont je n'avais jamais été jaloux et sur laquelle je n'avais jamais conçu un soupçon. Ce que je venais de voir ne me laissait aucun doute. Je demeurais comme étourdi d'un coup de massue et ne me rappelle rien de tout ce qui s'opéra en moi durant le temps que je restais sur cette borne. Sinon que, regardant machinalement le ciel et voyant une étoile filer, je saluais cette apparence fugitive où les poètes voient un monde détruit, et lui ôtait gravement mon chapeau. Je rentrai chez moi, tranquillement, n'éprouvant rien, ne sentant rien, et comme privé de réflexion. Je commençai à me déshabiller, me mis au lit. Mais à peine eus-je posé la tête sur le chevet, que les esprits de la vengeance me saisirent avec une telle force que je me redressai tout à coup contre la muraille, comme si tous les muscles de mon corps fussent devenus de bois. Je descendis de mon lit en criant, les bras étendus, ne pouvant marcher que sur les talons, tant les nerfs de mes orteils étaient crispés. Je passai ainsi près d'une heure complètement fou et raide comme un squelette. Ce fut le premier accès de colère que j'éprouvai. L'homme que j'avais surpris auprès de ma maîtresse était un de mes amis les plus intimes. J'allai chez lui le lendemain, accompagné d'un jeune avocat nommé Déjeunet. Nous prîmes des pistolets, un autre témoin, et fûmes au bois de Vincennes. Pendant toute la route, j'évitais de parler à mon adversaire et même de l'approcher. Je résistais ainsi à l'envie que j'avais de le frapper ou de l'insulter. Ces sortes de violences étaient toujours hideuses et inutiles, du moment que la loi permet le combat en règle. Mais je ne pus me défendre d'avoir les yeux fixés sur lui. C'était un de mes camarades d'enfance. Et il y avait eu entre nous un échange perpétuel de services depuis nombre d'années. Il connaissait parfaitement mon amour pour ma maîtresse, et m'avait même plusieurs fois fait entendre clairement que ces sortes de liens étaient sacrés pour un ami, et qu'il serait incapable de chercher à me supplanter, quand même il aimerait la même femme que moi. Enfin, j'avais toutes sortes de confiance en lui, et je n'avais peut-être jamais serré la main d'une créature humaine plus cordialement que la sienne. Je regardais curieusement, avidement, cet homme que j'avais entendu parler de l'amitié comme un héros de l'Antiquité, et que je venais de voir caressant ma maîtresse. C'était la première fois de ma vie que je voyais un monstre. Je le toisais d'un œil hagard pour l'observer comment il était fait. Lui que j'avais connu à l'âge de 10 ans, avec qui j'avais vécu jour par jour, dans la plus parfaite et la plus étroite amitié. Il me semblait que je ne l'avais jamais vu. Je me servirai ici d'une comparaison. Il y a une pièce espagnole, connue de tout le monde, dans laquelle une statue de pierre vint souper chez un débauché, envoyé par la justice céleste. Le débauché fait bonne contenance et s'efforce de paraître indifférent. Mais la statue lui demande de lui donner la main. Et dès qu'il la lui a donnée, l'homme se sent pris d'un froid mortel et tombe en convulsion. Or, toutes les fois que durant ma vie, il m'est arrivé d'avoir cru pendant longtemps avec confiance soit à un ami, soit à une maîtresse, et de découvrir tout d'un coup que j'étais trompée. Je ne puis rendre l'effet que cette découverte a produit sur moi qu'en la comparant à la poignée de la main de la statue. C'était véritablement l'impression du marbre, comme si la réalité, dans toute sa mortelle froideur, me glaçait d'un baiser. C'était le toucher de l'homme de pierre. Hélas, l'affreux convive a frappé plus d'une fois à ma porte. Plus d'une fois, nous avons soupé ensemble. Cependant, les arrangements faits, nous nous mîmes en ligne, mon adversaire et moi, avançant lentement l'un sur l'autre. Il tira le premier et me fracassa le bras droit. Je pris aussitôt mon pistolet de l'autre main, mais je ne pus le soulever, la force me manquant. Je tombai sur un genou. Alors, je vis mon ennemi s'avancer précipitamment d'un air inquiet et le visage très pâle. Mes témoins accoururent en même temps, voyant que j'étais blessé. Mais il les écarta et me prit la main de mon bras malade. Il avait les dents serrées et ne pouvait parler. Je vis son angoisse. Il souffrait du plus affreux mal que l'homme puisse éprouver. « Va-t'en !» lui criai-je. « Va t'essuyer au drap de... » Il suffoquait, et moi aussi. On me mit dans un fiacre, où je trouvai un médecin. La blessure ne se trouva pas dangereuse, la balle n'ayant point touché les os. Mais j'étais dans un tel état d'excitation qu'il fut impossible de me penser sur le champ. Au moment où le fiacre partait, je vis à la portière une main tremblante. C'était mon adversaire qui revenait encore. Je secouai la tête pour toute réponse. J'étais dans une telle rage que j'aurais vainement fait un effort pour lui pardonner, tout en sentant bien que son repentir était sincère. Arrivé chez moi, le sang qui coulait abondamment de mon bras me soulagea beaucoup, car la faiblesse me délivra de ma colère, qui me faisait plus de mal que ma blessure. Je me couchai avec délice, et je crois que je n'ai jamais rien bu de plus agréable que le premier verre d'eau qu'on me donna. M'étant mis au lit, la fièvre me prit. Ce fut alors que, le fantôme de ma belle et adorée maîtresse étant venu se pencher sur moi, je commençai à verser des larmes. Ce que je ne pouvais concevoir, ce n'était pas qu'elle eût cessé de m'aimer, mais c'était qu'elle m'eût trompée. Je ne comprenais pas par quelle raison une femme qui n'est forcée ni par le devoir ni par l'intérêt peut mentir à un homme lorsqu'elle en aime un autre. Je demandais 20 fois par jour à déjeuner comment cela était possible. Si j'étais son mari, disais-je, ou si je la payais, je concevrais qu'elle me trompât. Mais pourquoi, si elle ne m'aimait plus, ne pas me le dire, pourquoi me tromper? Je ne concevais pas qu'on pût mentir en amour. J'étais un enfant alors, et j'avoue qu'à présent, je ne le comprends pas encore. Toutes les fois que je suis devenu amoureux d'une femme, je le lui ai dit. Et toutes les fois que j'ai cessé d'aimer une femme, je le lui ai dit de même, avec la même sincérité, ayant toujours pensé que sur ces sortes de choses, nous ne pouvons rien par notre volonté, et qu'il n'y a de crime qu'au mensonge. Déjeuner, à tout ce que je disais, me répondait, C'est une misérable. Promettez-moi de ne plus la voir. » Je le lui jurai solennellement. Il me conseilla en outre de ne point écrire, même pour lui faire des reproches, et si elle m'écrivait, de ne pas lui répondre. Je lui promis tout cela, presque étonné qu'il me le demandât, et indigné de ce qu'il pouvait supposer le contraire. Cependant, la première chose que je fis, dès que je pus me lever et sortir de la chambre, fut de courir chez ma maîtresse. Je la trouvai seule, assise sur une chaise dans un coin de sa chambre, le visage abattu et dans le plus grand désordre. Je l'accablais des plus violents reproches. J'étais ivre de désespoir, je criais à faire retentir toute la maison, et en même temps les larmes me coupaient parfois la parole si violemment que je tombais sur le lit pour leur donner un libre cours. « Ah, infidèle! Ah, malheureuse !» lui disais-je en pleurant. « Tu sais que j'en mourrais. Cela te fait-il plaisir? Que t'ai-je fait ?» Elle se jeta à mon cou, me dit qu'elle avait été séduite, entraînée, que mon rival l'avait enivrée dans ce fatal souper, mais qu'elle n'avait jamais été à lui, qu'elle s'était abandonnée à un moment d'oubli, qu'elle avait commis une faute, mais non pas un crime, enfin, qu'elle voyait bien tout le mal qu'elle m'avait fait, mais que si je ne la reprenais, elle en mourrait aussi. Tout ce que le repentir sincère a de larmes, tout ce que la douleur a d'éloquence, elle l'épuisa pour me consoler, pâle et égarée, sa robe entr'ouverte, ses cheveux épars sur ses épaules, à genoux au milieu de la chambre. Jamais je ne l'avais vue si belle, et je frémissais d'horreur pendant que tous mes sens se soulevaient à ce spectacle. Je sortis brisé, n'y voyant plus, et pouvant à peine me soutenir. Je ne voulais jamais la revoir, mais au bout d'un quart d'heure j'y retournais. Je ne sais quelle force désespérée m'y poussait. J'avais comme une sourde envie de la posséder encore une fois, de boire sur son corps magnifique toutes ses larmes amères et de nous tuer après tous les deux. Enfin je l'abhorrais et je l'idolâtrais. Je sentais que son amour était ma perte, mais que vivre sans elle était impossible. Je montais chez elle comme un éclair. Je ne parlais à aucun domestique. J'entrais tout droit, connaissant la maison, et je poussais la porte de sa chambre. Je la trouvais assise devant sa toilette, immobile et couverte de pierreries. Sa femme de chambre la coiffait. Elle tenait à la main un morceau de crêpe rouge qu'elle passait légèrement sur ses joues. Je crus faire un rêve. Il me paraissait impossible que ce fût là cette femme que je venais de voir. Il y avait un quart d'heure noyée de douleur étendue sur le carreau. Je restai comme une statue. Elle, entendant sa porte s'ouvrir, tourna la tête en souriant. « Est-ce vous ? » dit-elle. Elle allait au bal et attendait mon rival qui devait l'y conduire. Elle me reconnut, serra ses lèvres et fronça le sourcil. Je fis un pas pour sortir. Je regardai sa nuque lisse et parfumée, où ses cheveux étaient noués et sur laquelle étincelait un peigne de diamant. Cette nuque, siège de la force vitale, était plus noire que l'enfer. Deux tresses luisantes y étaient tordues, et de légers épis d'argent se balançaient au-dessus. Ses épaules et son cou, plus blancs que le lait, en faisaient ressortir le duvet rude et abondant. Il y avait dans cette crinière troussée je ne sais quoi d'impudemment beau, qui semblait me railler du désordre où je l'avais vu un instant auparavant. J'avançai tout d'un coup et frappai cette nuque d'un revers de mon poing fermé. Ma maîtresse ne poussa pas un cri. Elle tomba sur ses mains, après quoi je sortis précipitamment. Rentré chez moi, la fièvre me reprit avec une telle violence que je fus obligé de me remettre au lit. Ma blessure s'était rouverte, et j'en souffrais beaucoup. Déjeuner vint me voir. Je lui racontai tout ce qui s'était passé. Il m'écouta dans un grand silence, puis se promena quelque temps par la chambre comme un homme irrésolu. Enfin, il s'arrêta devant moi et partit d'un éclat de rire. « Est-ce votre première maîtresse ?» me dit-il. « Non, lui dis-je, c'est la dernière. » Vers le milieu de la nuit, comme je dormais d'un sommeil agité, il me sembla dans un rêve entendre un profond soupir. J'ouvris les yeux et vis ma maîtresse debout près de mon lit, les bras croisés, pareil à un spectre. Je ne pus retenir un cri d'épouvante, croyant une apparition sortie de mon cerveau malade. Je me lançai hors du lit et m'enfuis à l'autre bout de la chambre, mais elle vint à moi. « C'est moi ? » dit-elle. Et me prenant à bras le corps, elle m'entraîna. « Que veux-tu ? criai-je, lâche-moi! Je suis capable de te tuer tout à l'heure. Eh bien, tue-moi, dit-elle. Je t'ai trahi, je t'ai menti, je suis infâme et misérable. Mais je t'aime, et je ne puis me passer de toi. Je la regardai, qu'elle était belle. Tout son corps frémissait, ses yeux perdus d'amour répandaient des torrents de volupté, sa gorge était nue, ses lèvres brûlantes. Je la soulevai dans mes bras. Soit, lui dis-je, mais devant Dieu qui nous voit, par l'âme de mon père, je te jure que je te tue tout à l'heure, et moi aussi. Je pris un couteau de table qui était sur ma cheminée et la posai sous l'oreiller. Allons, Octave, me dit-elle en souriant et en m'embrassant. Ne fais pas de folie, viens, mon enfant. Toutes ces horreurs te font mal, tu as la fièvre. Donne-moi ce couteau. Je vis qu'elle voulait le prendre. Écoutez-moi, lui dis-je alors. Je ne sais qui vous êtes et quelle comédie vous jouez, mais quant à moi, je ne la joue pas. Je vous aimais autant qu'un homme peut aimer sur terre, et pour mon malheur et ma mort, sachez que je vous aime encore éperdument. Vous venez me dire que vous m'aimez aussi, je le veux bien. Mais par tout ce qu'il y a de sacré au monde, si je suis votre amant ce soir, un autre ne le sera pas demain. Devant Dieu, répétai-je, je ne vous reprendrai pas pour maîtresse, car je vous hais autant que je vous aime. Devant Dieu, si vous voulez de moi, je vous tue demain matin. En parlant ainsi, je me renversai dans un complet délire. Elle jeta son manteau sur ses épaules et sortit en courant. Lorsque Desgenais sut cette histoire, il me dit « Pourquoi n'avez-vous pas voulu d'elle? Vous êtes bien dégoûté, c'est une jolie femme. » « Plaisantez-vous, lui dis-je. Croyez-vous qu'une pareille femme puisse être ma maîtresse? Croyez-vous que je consente jamais à partager avec un autre? Songez-vous qu'elle-même avoue qu'un autre la possède? Et voulez-vous que j'oublie que je l'aime, afin de la posséder aussi? Si ce sont là vos amours, vous me faites pitié. » Desgenais me répondit qu'il n'aimait que les filles, qu'il n'y regardait pas de si près. « Mon cher Octave, ajouta-t-il, vous êtes bien jeune. Vous voudriez avoir des choses, de belles choses, mais qui n'existent pas. Vous croyez à une singulière sorte d'amour. Peut-être en êtes-vous capable. Je le crois, mais ne le souhaite pas pour vous. Vous aurez d'autres maîtresses, mon ami, et vous regretterez un jour à venir ce qui vous est arrivé cette nuit. Quand cette femme est venue vous trouver, il est certain qu'elle vous aimait. Elle ne vous aime peut-être pas à l'heure qu'il est. Elle est peut-être dans les bras d'un autre. Mais elle vous aimait cette nuit-là, dans cette chambre. Et que vous importe le reste? Vous aviez là une belle nuit, vous la regretterez, soyez-en sûr, car elle ne reviendra plus. Une femme pardonne tout, excepté qu'on ne veuille pas d'elle. Il fallait que son amour pour vous fût terrible, pour qu'elle vînt vous trouver, se sachant et s'avouant coupable, se doutant peut-être qu'elle serait refusée. Croyez-moi, vous regretterez une nuit pareille, car c'est moi qui vous dis que vous n'en aurez guère. » Il y avait dans tout ce que disait Desgenais un air de conviction si simple et si profond, une si désespérance, tranquillité d'expérience, que je frissonnais en l'écoutant. Pendant qu'il parlait, j'éprouvai une tentation violente d'aller encore chez ma maîtresse, ou de lui écrire pour la faire venir. J'étais incapable de me lever. Cela me sauva de la honte de m'exposer de nouveau à la trouver en attendant mon rival, ou enfermé avec lui. Mais j'avais toujours la facilité de lui écrire. Je me demandais malgré moi, dans le cas où je lui écrirais, si elle viendrait. Lorsque Desgenais fut parti, je sentis une agitation si affreuse que je résolus d'y mettre un terme, de quelque manière que ce fût. Après une lutte terrible, l'horreur surmonta enfin l'amour. J'écrivis à ma maîtresse que je ne la reverrais jamais, que je la priais de ne plus revenir si elle ne voulait s'exposer à être refusée à ma porte. Je sonnai violemment et ordonnai qu'on portât ma lettre le plus vite possible. À peine mon domestique eut-il fermé la porte que je le rappelai. Il ne m'entendit pas. Je n'osai le rappeler une seconde fois. Et, mettant mes deux mains sur mon visage, je demeurai enseveli dans le plus profond désespoir.